France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Benjamin Bernheim, je suis né à Paris en 1985 et je suis chanteur d'opéra.
L'épisode d'hier se terminait sur les années d'apprentissage du jeune choriste Benjamin Bernheim à l'Opéra de Lausanne. La scène, disait-il, est un professeur essentiel, mais ce n'est pas pour autant qu'il oublie le rôle qu'a joué pour lui son maître Gary McBee. Retour sur ses heures de cours à Lausanne.
Si on en vient peut-être plus précisément à ce que vous a appris votre professeur Gary, on le sent, c'était, vous avez dit, une pensée du chant. J'imagine aussi que c'est une pratique du chant de vous conduire dans le meilleur endroit pour votre voix, pour qu'elle s'épanouisse. Dans ces cas-là, ce sont des heures de quoi travailler tout.
Ce sont des dizaines et des centaines d'heures de beaucoup de choses. Parce que la réussite se fait aussi avec les échecs. Donc ce sont des heures de doute. Des heures d'essai, des heures de combat contre un instrument qu'on ne maîtrise pas. Et je pense qu'avec Gary, l'avantage que je voyais avec lui, ce qui me frustrait beaucoup, parce que d'ailleurs, je voulais qu'il me donne une technique sûre, claire, tout ça. Puis je voyais qu'il parlait de façon très technique à d'autres de ses élèves. Mais avec moi, il me parlait philosophie, il me parlait d'autres choses, il me parlait de pensée. Je me dis, mais j'aimerais bien qu'il me donne un... qui me donne un truc, quoi. Le truc
pour réussir. Parce que votre voix était saine, déjà?
Je sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas comment était ma voix à l'époque. Je crois qu'il y avait une voix naturelle, ça c'est sûr. Mais il y avait beaucoup à construire. Les aigus n'étaient pas complètement là, ou ils étaient là une fois sur deux, une fois sur trois, une fois sur dix. De temps en temps, comme la voix de ténor est une voix qui n'est pas naturelle, c'est une voix qui se construit, et c'est une voix qui se construit avec la force physique, avec la force vocale. Alors, ça veut pas dire en force, mais il faut une certaine force pour habituer le muscle et tout le muscle vocal à créer des sons qui n'existent pas dans la nature. Donc ça, on passe par des heures je me souviens de cours de chant où j'avais la gorge en feu. J'ai dit, mais c'est pas normal. Et il me disait, mais tu crois qu'un joueur de football, après 90 minutes, il est tout frais? J'ai dit, ben non, mais quand même, j'ai mal à la gorge, je peux plus parler. Il me dit, ben oui, mais c'est comme ça. On passe par ça. On passe par les crampes, on passe par la douleur, on passe par le doute. On passe par des nuits où on va se dire, je ne vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, j'ai trop peur que ma voix me lâche, que de ne pas être capable. Et ce sont des heures, alors des heures de cours, évidemment, d'essayer du répertoire. Et je pense que ce qui est aussi très important, je pense que ça touche vraiment à tous les métiers, c'est la pensée. C'est ce qui se passe après. On a un cours de chant, mais après, il y a tout ce qui se passe après le cours de chant. On y repense, on essaie de refaire le film. De ce moment où on a chanté, waouh, cette note qui est sortie de ma bouche, c'était extraordinaire. Puis il y a aussi ce moment où j'arrivais pas à chanter cette phrase et on a essayé plusieurs fois et ça me fatiguait. Et donc il y a est-ce qu'on s'accroche au moment positif et on crée une spirale positive ou est-ce qu'on s'accroche au moment négatif et on crée des spirales négatives? Ça aussi, c'est aussi une question de choix. Si on est capable de toujours penser positif, ce qui est très difficile, on a beaucoup plus de chances de réussir, en tout cas pour soi. Mais je pense que j'ai réussi, en tout cas moi, à trouver un équilibre dans ma tête des échecs et des réussites. De pas m'attacher trop à mes réussites, parce que mes réussites n'existent que quand elles existent, sur le moment. Une fois que c'est passé, plus besoin d'en parler. Mais les échecs ont été très très importants pour moi. Parce que j'ai énormément appris de mes échecs, énormément appris des moments où j'ai eu peur, où j'ai perdu ma voix un peu sur scène, où je me suis fatigué la voix, où je me suis dit... Là, je fais peut-être pas forcément dans la bonne direction. Ce sont des échecs de la pensée et aussi des questions de timing. Donc, j'ai appris vraiment à apprivoiser un tout petit peu mon esprit, mes faiblesses, qui sont toujours là. Mais on trouve au fur et à mesure, je pense, on peut trouver une forme d'équilibre. Et ce qui est sûr, c'est que rien n'est jamais sûr. Et c'est ça la magie, c'est ce que disait Luciano Pavarotti dans une interview, je crois, dans les années 80. Et un journaliste américain lui demande, quand vous ouvrez la bouche, est-ce que vous savez ce qui va sortir de votre bouche? Et Luciano dit non. Alors tout le monde rit dans le public et il dit mais c'est ça qui est beau dans ce métier. C'est qu'on ne sait pas. C'est que c'est un saut dans le vide. Et ça, il faut apprendre à l'apprivoiser pour en faire un métier. C'est un stress quand même. de vivre ça, de se dire, je sais pas si ça va sortir, mais mon métier, c'est d'essayer que ça sorte. La tête a énormément de pouvoir là-dedans. Il y a un mot en allemand qui c'est l'imagination, Vorstellungskraft. Donc c'est le pouvoir de projection en allemand qui en français est presque quelque chose de passif. L'imagination passe pour quelque chose de, ah oui, tu as de l'imagination, tu penses. Mais en allemand, Vorstellungskraft, c'est le pouvoir de projection qu'on a dans notre tête. Et là, c'est là qu'on voit avec ce mot. Je me suis beaucoup expliqué de choses avec dans le chant avec ce mot en allemand de Vorstellungskraft, de pouvoir de projection, parce que il est en notre pouvoir de nous projeter une énergie positive, une pensée positive. Après, moi, ma recette, et je sais pas si c'est la bonne recette, mais ma recette à moi, c'est ne pas aller dans l'excès de confiance, mais ne pas aller dans l'excès de négativité. C'est trouver cette sorte de, c'est pas un équilibre parfait parce que ça balance. Ça balance. Il y a des fois où je suis sur scène et je suis en plein milieu d'une phrase et tout d'un coup, ma voix fatigue ou j'ai un chat dans la gorge ou j'ai une voix qui craque un peu. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait normal. C'est comme un footballeur qui rate un dribble. Ça fait pas de lui un mauvais footballeur. Mais c'est un moment qui nous fait perdre la confiance. Et tous ces moments qui ont construit ma carrière d'échecs ont été très importants. Les auditions ratées. Les comptes rendus de directeurs artistiques disant il n'a aucun futur, c'est pas un ténor, ou tout ça, ce sont des échecs. Évidemment, on le vit comme des échecs, mais qui nous construisent énormément. Et après, il y a les moments où on réussit quelque chose sur scène, on réussit quelque chose en coaching avec un chef d'orchestre qui nous regarde et qui nous dirige, et ça marche, et il y a un clic. Et ça, ce sont ces moments-là qui sont des énergies positives qu'on emmagasine et qui font pas que ça marche, mais qui font que on peut entrer dans des spirales positives.
Quelles étaient vos idoles à l'époque? Quand vous êtes jeune, que vous vous construisez, vous arrivez à Lausanne, c'est 17-18 ans.
Zinedine Zidane, par exemple. Mais moi, j'étais fou de sport. Donc, je suivais le tennis, je suivais le football. Et pour moi, les athlètes étaient des artistes, surtout les grands athlètes. Donc moi, je me nourrissais énormément de ce que je voyais chez les athlètes qui poussaient leur potentiel physique au maximum. Et au-delà de ce maximum, il y avait de l'art. Il y avait du génie. Alors on peut parler de Zidane, on peut parler de Maradona, de Ronaldo, de Roger Federer. Physiquement, sur le top 100 des joueurs de tennis, ils sont tous fit, ils ont tous un coup droit, un revers. Mais au-delà de ces caractéristiques physiques, il y a du génie. Il y a une pensée, il y a une projection de ce que l'athlète veut faire. Et ça, je le voyais, comme je le voyais, qui est difficile avec le chant, c'est qu'on ne voit pas. On entend, mais on ne voit pas. On voit l'artiste qui sue à grosses gouttes et qui devient tout rouge et qui essaie de chanter sa phrase. Mais je voyais cette transformation artistique chez les athlètes énormément. Et j'étais fasciné par ça. Et au milieu de la vingtaine, j'ai commencé à pouvoir le traduire dans la musique. On peut chanter une phrase très bien. Mais pour que ce soit mieux que bien, pour que ce soit spécial, pour qu'on raconte quelque chose, ça va au-delà de la pureté vocale, ça va au-delà de la justesse technique, c'est au-delà de cette ligne. C'est une création qui va au-delà.
C'est quand on ose le danger aussi.
C'est quand on ose le danger, et c'est aussi pour ça que je parle de sauter dans le vide, parce que je pense qu'à partir du moment où je me sens en sécurité, je suis dans une zone de confort, j'ai l'impression que je ne mérite pas d'être sur scène. Pour en tant qu'artiste, l'artiste que je suis, je peux pas aller sur scène en me disant ça va être facile. Si je me dis ça, je mérite pas d'être sur scène et quelqu'un d'autre mérite plus que moi. Tandis que si je me dis, alors c'est peut-être des petites choses que je me dis avant d'entrer sur scène pour me mettre en condition peut-être, je ne sais pas comment ça va se passer et je vais pour le public de ce soir comme le public de la prochaine, je vais sauter dans le vide devant tout le monde parce que c'est ça que je fais, c'est ça mon métier. C'est ça qui fait ce qui fait là un peu la magie de la représentation. Ouais.
Thank you.
Est-ce que vous commencez à cette époque-là à avoir la capacité d'avoir des avis différents aussi par rapport à votre voix ? C'est-à-dire que je vous dis, quand on construit sa voix, on a un professeur, mais c'est peut-être pas très facile d'avoir d'autres avis qui viennent peut-être contredire. Ouais. Est-ce que...
Ça, c'est très difficile, ça. C'est un thème très difficile parce que il y a les « on dit ». On dit que. On dit qu'il faut avoir un professeur de chant. On dit qu'il faut avoir plusieurs professeurs de chant. On dit qu'il faut faire ça, 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 ça. Et quand on est un jeune chanteur et qu'on arrive dans le monde de l'opéra, on est bombardé de « on dit que ». Il paraît que. Tel machin, tel truc, il faut pas faire. Tel chanteur a fait ça. Il y a que de ça. Il y a beaucoup de bruit. C'est des pensées parasites. Ce sont pas les gens qui sont parasites, ce sont les pensées. Ce sont les termes utilisés qui nous mettent très vite dans des prisons de croyances. Où il faut pas chanter comme ça parce que j'ai entendu dire que c'était pas bien, tout ça. Et donc, le professeur de chant, alors ça, de nouveau, il n'y a pas de recette.
Moi, et j'ai vous avez choisi un professeur de vous en remettre, en fait.
Vous pensez bien qu'à 18 ans, c'est pas moi qui me suis dit « je choisis Gary McBee ». Je me suis dit « j'ai de la chance d'être choisi par Gary McBee ». C'est plutôt ça que je me suis dit. Moi, je me suis dit « j'ai une chance énorme d'être choisi parmi tous ceux qui voulaient aller chez Gary ». Gary, avant, il était directeur de l'Opéra Studio de l'Opéra de Lyon. Il était très connu, très reconnu. Des gens venaient le voir de partout pour travailler avec lui. Et puis moi, il me prenait. Moi, j'ai vu ça comme une responsabilité, une chance. Et après, lui, il est parti, Gary. Quand il est parti, ça a été très étrange pour moi.
C'était au bout de combien de temps ?
On a travaillé 18 à mes 22, 23 ans, 5 ans ensemble. Et après, on a continué à travailler encore un an ou deux, mais peut-être une ou deux fois tous les 6 mois. Les 4 fois par an, c'est pas vraiment un travail hebdomadaire. Il est reparti aux États-Unis, dans le Maine. Et là, c'est vrai que déjà, j'ai perdu la personne qui était mon prof de chant, mais aussi un mentor. C'est quelqu'un qui était très important pour moi, avec lequel je parlais énormément, et je parle aussi toujours souvent, mais il est plus là. Géographiquement, il est plus la porte à côté. Donc, ça a été une opportunité de grandir, de prendre les choses dans mes mains. Et il m'est arrivé la même chose cette année, puisque depuis Gary... Alors, parce que... On dit qu'il faut avoir des profs de chant. Moi, je me suis dit, bon, alors, si tout le monde me dit qu'il faut que j'ai un prof de chant, mes agents me disaient, faut que t'aies un prof de chant. Je suis allé chercher des profs de chant. Donc, j'avais 25-26 ans. J'étais en troupe à l'Opéra de Zurich. J'avais des responsabilités. Et le problème, c'est que j'allais chez des profs. Je suis allé voir 3 profs. Et ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont tous dit, oui, alors, c'est bien, mais il faut recommencer depuis le début. Puis moi, je leur disais, mais j'ai pas le temps. Parce que moi, demain, je chante sur scène. J'ai pas le temps de recommencer depuis zéro. Il faut que je dois livrer ma marchandise sur scène d'une certaine manière. Je peux pas me permettre de faire une pause de 6 mois, 1 an, 2 ans pour recommencer. Donc, et j'avais toujours cette impression. Alors, est-ce que le prof disait ça parce que je venais de chez un autre prof, donc il aimait pas l'autre prof, donc il voulait que je fasse, que je sois son produit pur? Parce qu'il y a aussi beaucoup de professeurs qui sont comme ça, qui veulent former, qui sont un peu comme des forgerons, qui veulent forger leur lame, forger leurs instruments, leurs élèves, comme si c'était des instruments, comme si c'était une épée. Et moi, avec Gary, j'avais pas compris ça, j'avais pas entendu ça chez lui. Lui, il m'encourageait au contraire à faire des masterclass, il m'encourageait à aller écouter d'autres avis, il m'a encouragé à aller voir Carlo Bergonzi en Italie, d'aller voir Giacomo Aragal près de Barcelone, et d'écouter, d'entendre des avis. Parce que c'est pas parce que lui, c'était mon professeur, que c'est lui seulement qui avait raison. Et il était très conscient de ça. Ça m'avait impressionné, cette humilité qu'il avait de me dire « Mais je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas prophète. » Et il m'a dit « Et je ne suis pas toi. La seule personne qui est responsable de ton chant, c'est toi. » Et ça m'avait... C'est terrible, parce que j'avais l'impression de me retrouver avec 50 kilos d'informations dans les mains en disant « Mais j'aimerais bien que quelqu'un m'aide. » J'aimerais bien, c'est beaucoup plus facile de se dire « On a un prof qui vous guide. » Comme ça, on a beaucoup moins à porter. Mais quand il est parti aux États-Unis, Gary, ça a été une chance pour moi déjà de voir que c'est pas que j'avais pas besoin de prof de chant, mais que la seule personne qui savait exactement tous les défauts vocaux que j'ai, c'est moi. Et donc la seule personne qui pouvait soit les corriger, soit les améliorer, c'était moi. Si j'avais la bonne écoute et si je me mettais un coup de pied là où je pense. Il fallait que je prenne mes responsabilités. Et là, je réponds un peu à une de vos questions. C'est le moment où je me suis dit, faut plus que j'aie peur du rejet. Parce que ça fait partie du métier. Et que si je prends pas ma voix et mon instrument 100% dans mes mains, je pourrais jamais savoir si j'ai vraiment pris le risque. Et donc c'est là que j'ai décidé de travailler tout seul. Et ça a été une traversée, c'est pas une traversée du désert, ni de la jungle, ni de quoi que ce soit, ça a été une traversée compliqué. C'est un peu les quatre saisons, on va dire. Je suis passé par des doutes, je suis passé par des moments d'euphorie où je pensais avoir tout compris. J'avais réussi à chanter trois jours de suite ce rôle avec ces aigus là, c'est bon, j'ai tout compris. Puis après la dégringolade, la confiance qui dégringole parce que un coaching, c'est-à-dire une heure de chant avec un pianiste, et j'arrivais plus à chanter. Donc je suis passé au travers de toutes ces coups là, et il y a une chose que je gardais en tête, c'est je suis responsable. C'est moi qui suis responsable, pas un prof, pas un nom, pas un agent, pas la personne qui partage ma vie, pas ma famille, personne, ni mes parents, ni qui que ce soit, c'est moi qui suis responsable de ma voix.
Und morgen wird die Sonne wieder scheinen, und auf dem Wege, den ich gehen werde, wird
France Musique, les grands entretiens de Benjamin Bernheim.
J'ai eu la chance à ce moment-là de voir arriver à Zurich une femme, une pianiste, accompagnatrice et chef de chant, Carrie Anne Matheson, qui m'a beaucoup accompagné dans des récitals. D'ailleurs, c'est même faux de dire qu'elle m'a accompagné. On est une équipe, donc on s'accompagne mutuellement. Et qui arrivait du Metropolitan Opera, qui arrivait en Europe. On s'est très vite pris d'amitié l'un pour l'autre, mais surtout on s'est aperçu qu'on était de deux mondes très très différents. Le monde américain où tout le monde s'encourage, tout le monde se dit tu es génial, ta voix est merveilleuse, tu joues comme personne, extraordinaire. Et l'Europe qui est très différente par rapport à ça, où les compliments, c'est de temps en temps et encore. Et donc pour elle, elle arrivait en Europe et elle comprenait pas. Elle dit mais elle essayait de donner des encouragements à tout le monde, parce que c'est comme ça qu'elle le faisait. Tout le temps. Et en fait, on répondait pas du tout à ça, nous, en Europe. On était là, oui, mais bon, les compliments, c'est bien gentil, mais on va avancer. Et puis un jour, on s'est arrêté. Je lui ai dit, écoute, à la fin de ce coaching, j'aimerais être un meilleur chanteur que je n'ai été quand je suis rentré il y a une heure. Et j'ai brisé la glace entre nous. Ce vocabulaire américain ne fonctionne pas avec moi. Et on a eu un silence de quelques secondes. Et là, notre travail, il a commencé. Parce que là, moi, je lui ai dit, tu as une responsabilité, c'est de faire de moi un meilleur chanteur. Pas parce que tu vas avoir ma technique en main ou quoi que ce soit, c'est parce que tu dois me pousser dans mes retranchements. Tu dois me sortir de ma zone de confort. Si on veut être une bonne équipe, et au fur et à mesure, on a partagé d'ailleurs cette responsabilité. Moi aussi, je la poussais dans ses retranchements. Et ça a fait de nous une équipe assez formidable. Donc elle a été ma coach musicale. Elle a été mes oreilles pour mon premier enregistrement avec Deutsche Grammophon. Ça a été une équipe extraordinaire, mais c'est moi qui étais en responsabilité de mon chant. Ma technique, c'était moi. Et ça n'a pas été un prof de chant, mais ça a été une coach. Et donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai travaillé longtemps et qui, malheureusement, s'en va. Parce que, et c'est merveilleux pour elle, elle est la nouvelle directrice de l'Adler, la compagnie Adler, qui est l'opéra studio de l'Opéra de San Francisco. Et évidemment, on a pleuré toutes les larmes de notre corps, hein, parce que c'était un adieu, c'était tellement dur, on était comme frères et sœurs et... Ça, c'était très dur, mais en même temps, on s'est dit, c'est aussi une occasion de grandir. Donc, les professeurs, ça peut être génial, ça peut être dévastateur, mais à la fin, il n'y a que nous qui sommes en responsabilité de nos voix.
Quand viendra la saison nouvelle, quand auront disparu les trois, tous les deux nous irons, ma belle, pour cueillir. Sous nos pieds égrenant les perles que l'on voit au matin trembler. Nous irons écouter les merles souffler.
Giacomo Aragall, il vous a donné quoi, par exemple, comme conseil?
Giacomo Aragall, il m'avait dit « ne pousse jamais la voix ». C'est très drôle parce qu'il était vu en plus comme un ténor lyrique, mais presque spinto, donc c'est la traduction en français du ténor poussé. Et il avait une voix naturelle extraordinaire Giacomo Argal, mais en même temps, il avait ce poussé naturel. C'est comme quand, je sais pas, on dit au tennis, au golf, il faut que ce soit naturel, mais il n'y a pas de geste naturel. On fabrique des gestes. Donc pour moi, c'était, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par ne pas pousser? Je ne fais que ça. Je ne fais que ça du matin au soir. J'essaie de pousser pour que ma voix sorte, pour que mon muscle là se forme. Et évidemment, au fur et à mesure, on comprend ce que ça veut dire de ne pas pousser. Ça veut dire de trouver la force, mais de ne pas être en force. De passer par les nasales, par le nez, mais pas dans le nez. Ce sont des termes qu'au début, on se dit, mais de quoi est-ce qu'ils parlent ces gens? Et au fur et à mesure, on met du sens, en fait, à tous ces termes. Giacomo Ragan, il m'a laissé ça comme impression, et déjà une impression extraordinaire qu'à 65 ans, à l'époque, il avait déjà 65 ans, on pouvait chanter comme si on en avait 20. Quand il ouvrait la voix, on était, mais c'était comme un jeune de 20 ans, alors peut-être pas de 20 ans, de 30 ans en tout cas, mais avec une voix, on comprenait pas comment c'était possible. Giacomo Ragal a souffert toute sa carrière de la peur de la scène, de problèmes extra-scéniques, qui étaient plutôt dus à la boisson et au jeu, mais c'est quelqu'un qui avait une peur de la scène, une peur fondamentale de la scène, qui s'arrêtait en pleine représentation, qui s'excusait au public en disant « J'ai le larynx, là je ne peux plus chanter, j'arrive plus ». Le stress le prenait tellement, il n'y arrivait plus. C'était une des voix les plus naturelles, des plus belles que j'ai entendues. Lui, Giacomo Ragal, il m'a montré ça, le naturel. Et Bergonzi, lui, il m'a appris qu'à 83 ans, on peut avoir une confiance en soi dans le chant. C'est-à-dire qu'il disait, écoute, ma voix, elle sonne comme des toilettes, j'ai plus de voix. Mais j'ai toujours ma technique. Et il m'a expliqué, il m'a montré comment, il nous montrait, on était 6 ténors à être à l'Académie Verdienne de Bergonzi. Et il nous montrait comment il utilisait sa voix. Alors c'est vrai que je dois avouer, avec tout le respect que j'ai pour l'homme qui était le prince des ténors de sa génération, c'était plus très très beau. Mais alors, cette technique. Et il avait un souffle incroyable à 83 ans. Incroyable.
Et ça permet de tout décomposer d'une certaine façon, j'imagine. Si en plus, oui. En fait, la voix n'est plus tellement là, il n'y a plus que la technique. Est-ce qu'elle n'est pas plus transparente?
Et justement, on avait la technique à l'état pur. On n'avait pas le paquet cadeau. On n'avait pas tout ce qui enrobe, tout le sucre, tout ce qui fait que c'est joli. On avait juste ce qui restait. On avait les fondations, un peu comme si on avait un squelette de voix. Mais c'était fascinant, parce qu'en plus, c'était un monstre de ténor. Il avait chanté avec tous les grands, et tellement de gens avaient eu la chance de chanter avec lui. Il était un grand, et il m'avait beaucoup aimé. J'avais beaucoup apprécié chanter avec lui. Il m'a toujours dit, j'ai travaillé une fois avec lui pendant 2 semaines. Il m'a dit, un jour, peut-être je serai plus là, mais je veux que tu chantes le bal masqué en pensant à moi, parce que ta voix pour le bal masqué, c'est parfait. Et ça m'a resté. Un jour, je chanterai le bal masqué et je penserai très très fort à Carlo Bergonzi. Mais c'est vrai qu'il avait, pour moi, pas la plus belle voix, mais une élégance dans le chant. Une ligne de chant qui donnait envie. C'était extraordinaire.
Ah oui, c'est le style, le souffle. Incroyable. Et c'est vrai que c'est pas forcément le plus beau des timbres.
Non. Et c'est ce que je me suis souvent dit, parce que comme je n'aime pas ma voix, je me suis jamais dit que j'avais une belle voix. J'ai préféré me dire, je trouvais un peu une façon de faire aller les choses en me disant, ben moi, ce qui m'intéresse le plus dans ma voix, c'est d'être le plus élégant possible, peut-être, ou d'être le plus, pas propre, mais oui, le plus élégant, d'avoir le plus de souffle, de raconter quelque chose. Parce que je pense que c'est peut-être une chance que j'ai de ne pas être amoureux de ma voix. Parce que ça me permet de voir ma voix comme un ou une partenaire de travail, comme une entité en moi, mais qui n'est pas, c'est pas de l'amour absolu, c'est pas une passion, c'est vraiment un instrument.
Quelques notes du bal masqué de Verdi pour refermer le 3e épisode des Grands Entretiens avec Benjamin Bernheim, équipe de réalisation Lionel Quentin, Lucas Derode, Claire Levasseur et Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.